Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
L'autre jour, en me baladant dans les rues lyonnaises, je suis tombé sur un attroupement place des Terreaux. Je me suis discrètement approché et j'ai pu admirer un numéro assez amusant. Un homme en costume gris foncé avec une cravate bleu marine gesticulait. Je voyais pas bien de là où j'étais, mais je pense qu'il parlait de politique. Ou d'argent. Quel autre sujet de conversation mérite vraiment qu'on s'y attarde? Au bout d'un moment, je commence à reconnaître la voix et je remarque que derrière lui se tient une grande brune. Aucun doute, c'est Carla Bruni. J'étais tombé sur un mini-meeting de Sarkozy. Vous ne me croyez pas? Pourtant, vous devriez, je vous assure, c'est un fait alternatif. Vous ne me croyez toujours pas? Bon, d'accord, c'était Place Bellecour, pas des Terreaux. Et puis bon, il n'y avait pas Carla. Non? Toujours pas convaincu? Allez, j'avoue, il n'y avait pas Sarkozy. Et puis, pas d'attroupement non plus. Bon, d'accord, vous m'avez épinglé. Vous me connaissez, je suis même pas sorti dans Lyon. J'étais affalé dans mon lit à surfer sur Internet. Et je suis tombé sur un magnifique article avec en prime une vidéo digne d'un grincement de craie sur un tableau pendant que quelqu'un joue avec du polystyrène sur votre côté gauche et quelqu'un vous tapote machinalement l'épaule droite. L'incarnation de ça n'étant autre que la féminisation du grand Moff Tarkin qu'est Kellyanne Conway, conseillère de Trump et surtout sa directrice de campagne. Je ne veux pas dire, mais avec un nom comme ça, ça n'inspire pas la confiance. Je parle bien sûr de Conway, hein, pas de Kellyanne, prénom sorti tout droit de l'imaginaire barbare et sous acide orthographique de la culture américaine. Allez, un peu d'onomastique de comptoir. Ça vous évoque quoi pour vous, Conway?
Le maïs, corn et la direction way.
Ah, presque. Alors? Pas d'autres idées?
Moi, c'est plutôt Kellyanne qui m'interroge comme prénom. Mais
ouais, en fait, c'est genre Kelly-Anne.
Ah,
mais
okay.
Sans le tiret.
D'accord.
Et Kelly avec un K. Voilà, bref, c'est. Ouais.
Kelly, c'est toujours avec un K?
Normalement, oui, mais ça fait très bizarre à voir quand même. Alors, bon, du coup, pour revenir à Conway, moi, ça m'a fait tout de suite penser à Con, plus loin, Way. Là où t'avais quasiment raison. Je m'explique pour les vilains qui n'ont pas leur C1. Con, en anglais, que l'on peut retrouver par exemple dans le mot con artist, signifie escroquerie. Et way, quand traduit à l'arrache, après un nom, peut prendre le sens de pratique, de chemin métaphorique emprunté par une personne. Du coup voilà, après avoir vu la vidéo, je trouve que s'appeler la voix de la duperie colle parfaitement avec quelqu'un qui vous balance sur une chaîne publique que la presse ment et que l'administration Trump propose des faits alternatifs. Pardon. Elle ne les propose pas. Demander le consentement paraît assez loin des capacités de Trump et de ses trompettes de la mort. Bref, revenons donc à cette fameuse vidéo.
Je ne cautionne pas les jeux de mots.
J'adore.
Revenons donc à cette fameuse vidéo. C'était un extrait de l'émission Meet the Press de la chaîne ABC qui avait invité cette fameuse Kellyanne Conway où le présentateur confronte la conseillère aux divers mensonges affirmés par Spicer, l'attaché de presse de la Maison Blanche. Parmi ceux-ci figurait surtout une phrase. La foule de spectateurs pour l'inauguration a été la plus importante à avoir jamais assisté à une prestation de serment. Point final. Le plus amusant, bien sûr, étant ce point final qui nous balance dans la face un joli « je ne veux pas en parler ». Chut, non, on dit plus rien. Un peu comme mon petit frère juste après que je lui indique quelques statistiques et divers articles pour lui montrer qu'il a totalement tort. Et ce n'est qu'un exemple de l'hypocrisie rampante de Trump et de son administration. Non, parce que sérieusement, je n'ai jamais vu autant de milliardaires ou de membres de l'establishment politico-économique dans ce cabinet qui finira sûrement bouché dans pas longtemps par effet d'accumulation. Je sais pas, moi, c'est un peu comme si Le Pen distribuait les portefeuilles ministériels à Jean-Claude Juncker, à son père, à son célèbre ami noir. Enfin bref, faut pas que je parle des Le Pen, à chaque fois je dérive, je me déporte. Revenons donc à notre jolie petite administration américaine élue par le peuple pour la finance. Pardon. Pour le peuple. Amusant quand il y a environ 3 millions de votes de populaire d'écart entre Trump et Hillary. Autant que la gauche française fantasmée par le PS, c'est vous dire. Cette administration entretient une véritable hostilité envers la presse, refusant même de parler aux journalistes de CNN qualifiés en live de « chaîne mensongère ». Alors que Trump a quand même insisté sur le fait que son inauguration a attiré le plus de spectateurs de l'histoire des États-Unis. Ce qui est faux, comme nous l'explique patiemment Reuters dimanche dernier. Trump a été admiré par 31 millions de téléspectateurs, contre 38 pour Obama en 2009 et carrément 42 millions pour Reagan. Même Nixon et Carter ont attiré plus de monde devant le petit écran que Trump, avec respectivement 33 et 34 millions. et dire que les audiences TV étaient une manière d'éviter la comparaison révélatrice entre les photos de 2009 et de vendredi dernier, ainsi que la comparaison de l'affluence dans le métro washingtonien 5 fois supérieure pour Obama. Le pire, c'est que Spicer offre une explication convaincante concernant la possibilité de faire des erreurs, de relayer trop rapidement une information fausse ou erronée par enthousiasme, avant de revenir en arrière avec un correctif par honnêteté. Sauf qu'après avoir dit quelque chose de sensé, en bon trumpiste, il n'a fait que s'enfoncer, surtout avec son fameux point final. Et du coup, cette vidéo sur laquelle je suis tombé, celle de Kellyanne Conway, c'est le dernier coup de pelle pour la tombe qu'ils viennent de se creuser. Trump le sait très bien, pourtant, Internet est sans pitié. Et les médias non plus, d'ailleurs, sur le long terme, quand on s'attaque à eux. Mais alors, qu'est-ce qu'un fait alternatif comme proposé par cette madame ? Selon elle, ce n'est pas quelque chose de faux. C'est juste une information qui ne correspond pas à ce qui est dit par les médias. Autrement dit, en langage Trump, un fait alternatif, c'est le nom qu'on est obligé de donner à la réalité quand les médias dissimulent la vérité sous d'horribles preuves factuelles tirées de nombreuses sources, croisées avec d'autres médias, et même comment elles osent, ces vils médias, quand la vérité vraie et véritable est dissimulée par des études scientifiques menées par des chercheurs honnêtes et souvent consciencieux, quoi, quand même.
Où va le monde ?
Exactement. Alors voilà, les faits alternatifs vantés par la conseillère de Trump ne sont pas de son propre cru, pas plus que le discours de Melania Trump n'était le sien, ou l'humanité de Valls. Et oui, peut-être est-ce une mise en garde, mais les alternative facts sont un concept tout droit tiré de l'esprit pour le coup vraiment incroyable de George Orwell et de son chef-d'œuvre 1984. Les faits alternatifs sont la vérité de Big Brother, indépendante de la réalité objective, mais pourtant encore plus vraie. C'est comme le 2 plus 2 égale 5 que les tortionnaires forcent Winston à dire, puis à croire. On a dépassé le stade du refus d'admettre son erreur. On est dans une véritable bataille entre la réalité objective qu'il est impossible d'exprimer objectivement et rien de plus qu'une vision, un monde fantasmé. Si le terme n'est jamais explicitement donné dans 1984, toute la pensée qui entoure la construction politique de la réalité est décrite avec brio. Et lorsque le président du monde libre et sa clique de serviteurs du mal vont à l'encontre de faits avérés, c'est un peu flippant quand même. D'ailleurs, après cette fulgurante non-réponse de Kellyanne Conway, il paraîtrait que les ventes de 1984 ont augmenté, au point de passer en top des ventes Amazon. Du coup, en bon journaliste que je suis, après avoir croisé mes sources du Guardian à Vanity Fair, je me suis rendu sur le site Amazon.com. Et en effet, 1984 est le livre en numéro 1 des ventes de la semaine. Véridique, vous pouvez vérifier vous-même. Parce que oui, j'ai beau penser du mal des journalistes, de leur faute d'orthographe, de leur faute de français, de leurs biais et leurs erreurs, il n'empêche qu'en règle générale, ils effectuent un véritable travail, de recherche dans certains cas. Et aux États-Unis, la culture de la liberté de la presse est inscrite depuis toujours comme un des contre-pouvoirs les plus puissants de l'exécutif, et surtout une manière de se prémunir contre toute dérive autoritaire. C'est pour ça que le cinéma américain, jusqu'à Spotlight encore l'année dernière, nous montre un idéal du journaliste qui va dévoiler la vérité malgré tout ce que les politiciens véreux et les avocats corrompus peuvent lui balancer. Alors oui, cette affaire est partie de pas grand-chose pour dissimuler des faits plus difficiles à avaler comme l'arrêt des recrutements dans la fonction publique, les parades féministes dans plusieurs pays du monde et surtout la réduction drastique du droit à l'IVG ou l'abrogation de l'Obamacare qui, je le rappelle, a augmenté d'une dizaine de points le pourcentage d'Américains couverts par une assurance médicale. Mais cette affaire risque d'être bien trop révélatrice de la politique de Trump à l'égard de la réalité. Bien sûr, la communication politique est importante et se retrouve souvent confrontée au biais d'interprétation. Normalement, seulement d'interprétation. On peut dire que 10% de chômage c'est catastrophique, ou pas plus grave que ça. Mais on peut pas se vanter et affirmer devant tout le monde que le chiffre du chômage est à 1% parce qu'on est juste trop fort. Alors Donald, tu proposes de te lancer dans la référence à un maître de la SF spécialiste de la dictature et de la métaphore pour notre monde. Je te réponds en citant un autre maître de la SF spécialiste du monde alternatif justement, qui pourtant nous mettait en garde par cette phrase « La réalité c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire ». Je propose donc, avant de nous quitter, de faire du mot Trump un verbe, tromper, qui signifie dire quelque chose de faux en étant trop con pour se rendre compte que c'est faux, ou trop con. Petit exemple de quelqu'un qui se trompe, Macron est destiné à diriger longtemps notre pays, c'est vraiment le Kennedy français.
Qui a dit ça ?
Imaginons hypothétiquement quelqu'un qui se trompe. Et maintenant, la conjugaison. Tu te trompes, il se trompe, nous nous trompons. Enfin, pas moi, vous vous trompez, il se trompe. Comme à l'impératif, pas besoin de s'encombrer d'une première personne. Et Donald, notre petite carotte transgénique oubliée au fond du pot-au-feu, l'a bien compris quand il parle de lui à la troisième personne.
Merci Pierre. Des idées de faits alternatifs à nous proposer ou...
Les trompettes de la mort.
Ouais, ça c'était super.
Non, au moins ça fait lire. Mais Trump fait lire. Enfin, c'est cool que les gens se mettent à acheter des classiques de la littérature de science-fiction. Mais c'est pas Mathias, qu'en penses-tu?
J'aime pas du tout 1984, mais oui, je trouve que c'est...
Mais quoi? Mais...
Oui, non,
mais il est 18e.
Bon, après... Je tiens quand même à remettre en perspective ces chiffres. Ça a beau être en numéro 1 des ventes, l'éditeur de 1984 n'a commandé que 100 000 ouvrages. Sur une population de 350 millions, c'est pas vraiment fantastique, mais quand même.
Mais moi, ce que je me demande, on parlait d'affectif tout à l'heure, c'est que quand Trump parle, est-ce qu'il parle à tout le monde? Est-ce qu'il ne fait pas que parler à ceux dont il sait qu'ils sont acquis et donc du coup à renforcer ce mouvement affectif et ceux qui vont aller adhérer aux faits alternatifs vont finalement en fait se conforter eux-mêmes dans l'idée qu'ils se font de leur réalité.
Ah, ça fait vraiment penser à ça, surtout quand... quand on y pense, Trump se place quand même dans l'optique les médias mentent, ils s'acharnent contre moi, du coup forcément ça va rentrer dans la logique de « Ah oui c'est vrai, les médias s'acharnent contre lui, donc les médias disent forcément faux, donc après on peut croire tout ce que Trump dit ». Et évidemment ça c'est pour les cas extrêmes, mais après quand on se trouve au milieu et qu'on finit toujours confronté par « tous les médias mentent, Trump ment tout le temps », on n'arrive jamais vraiment à véritablement faire la part des choses, et à moins qu'on fasse nous-mêmes l'effort quand même assez considérable de recherche, d'aller se renseigner, de chercher les statistiques, etc., on se retrouve trop rapidement à, par exemple, ne lire qu'un seul journal, au hasard Le Canard Enchaîné tous les mercredis, alors qu'on pourrait, par exemple, se mettre à lire Le Figaro, même si on n'est pas forcément adhérent à leurs valeurs. Comme ça, on peut quand même avoir les différents points de vue et avoir une meilleure vision de ces médias.
Ça s'appelle un biais de confirmation.
Un biais de confirmation.
Bah, quand on est persuadé de quelque chose, on va sélectionner les informations, on va lire que les choses qui nous confortent dans notre opinion, et on va se mettre des œillères sur... Les faits alternatifs. Enfin,
mais est-ce que c'est viable sur le long terme?
Normalement, non. Enfin, c'est ce qui devrait ressortir de 1984, justement, à moins que toute la population ne prenne les faits alternatifs comme la vérité pure. C'est pas possible, parce que la réalité continue d'être là, le monde continue de tourner malgré ce qui est dit. Et normalement, dans l'hypothèse la plus optimiste, au bout d'un moment, les gens se rendent compte que si on dit le soleil est vert et qu'on regarde le soleil, on se rend compte qu'il n'est pas vert.
Moi, ce qui m'impressionne, c'est que cette tromperie, cette manière de se permettre de dire tout et n'importe quoi, elle est issue d'un courant d'internautes, en fait. Ce procédé de parole qui est repris sur la scène publique par Trump... est issu d'anarchistes libertaires qui depuis une vingtaine d'années utilisent Internet comme moyen d'expression où tout est dit, peu importe ce qu'on dit, peu importe le politiquement correct ou bien la réalité de ce qu'on écrit. Et il y a vraiment une revendication de cette ouverture de ce qui peut être dit. J'ai oublié le nom de ce courant-là, mais il se revendique... Trump a des alliés de ce côté-là et c'est que ça soit des hackers ou bien juste des technophiles ou bien des usagers d'Internet lambda, il y a ce nouveau problème de l'opinion publique qui s'exprime immédiatement sans censure, sans critique, sans rencontre avec l'autre, ce qui mène à pouvoir dire tout un tas de choses qu'on ne dirait pas forcément si on était en face de quelqu'un par peur de dire des conneries ou bien par respect pour l'autre, quoi.
Est-ce qu'ils sont vraiment anarchistes et libertaires? Je sais pas,
hein. Ils se présentent comme ça, mais c'est dommage que j'ai... Enfin, parce que il y a eu un dossier de Time Magazine.
D'accord.
Sur cette question-là et qui montrait les procédés de communication qui étaient issus des réseaux sociaux Internet et qui était repris par une droite, c'est les néo-conservateurs américains qui...
La alt-right.
Alt-right. Ouais, c'est ça, alt-right, c'est à ça que je pensais, ouais.
Oui, ce sont des gens en fait, qui considèrent que la liberté individuelle prime sur à peu près tout ce que... tout le reste.
Y compris dans la parole.
Y compris aussi dans le rapport à la réalité.
Oui,
et
dans la pensée. C'est, j'ai le droit de penser ça, donc aucun fait ne peut venir me contredire, sinon c'est... C'est une attaque envers moi-même.
Et que la vérité n'est pas une valeur.
D'ailleurs, par exemple, j'ai citer Philippe Cadic justement dans ma chronique, si des gens décident de se renseigner et d'aller chercher d'où vient cette citation, etc., ils risquent de tomber un peu rapidement sur Philippe Cadic qui justement à la fin de sa vie, dans un excès de démence, s'est retrouvé justement à se poser énormément de questions sur ce que c'est que la réalité, et en considérant que il existe deux réalités différentes qui se chevauchent en même temps, dont lui fait partie, il est à la fois deux personnes en même temps qu'une, etc. Donc ça peut vraiment pousser à de sacrés questionnements, sauf qu'il faut savoir que Philippe Cadic, quand il disait ce genre de choses, était vraiment fou, genre médicalement fou.
Bon, bien, moins Trump aura le mérite de nous faire faire de la métaphysique, ce qui n'est pas donné à tout le monde.
Et qu'il en fasse un peu lui-même, je pense aussi, d'ailleurs.
A-t-il les moyens? Bref, on va arrêter le Trump bashing. Même si ça fait plaisir. Et l'heure tourne et je laisse la parole tout de suite à Sirius qui va nous parler des anti-humanistes, si je ne m'abuse.
Oui, ou de l'humanisme en général.